Vous êtes sur RTL.
Il est 8h. RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce samedi est d'abord Rouen, où la population s'interroge. Quelles vont être les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol?
Il y a 48 heures, le feu était impressionnant, la fumée noire qui s'en dégageait aussi. Le sinistre est désormais maîtrisé, mais les habitants ont du mal à croire les autorités quand elles disent qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Romain Houg, vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Sur place, vous constatez une véritable inquiétude.
Dans le centre-ville de Rouen, rive droite, l'odeur de pétrole est omniprésente. Pire, elle redouble d'intensité lorsque la pluie se met à tomber. Julie, 24 ans, se protège le visage avec son foulard.
Bah, il pleut comme d'habitude, hein, on est en Normandie, mais cette fois-ci, ça pue l'essence, quoi. C'est terrible. Là, quand tu le vois, quand tu le sens, quand tu le respires, là, y a plus de... on peut pas dire que c'est pas dangereux, quoi. Je pense que dans 2-3 jours, ce sera terminé, mais dans 5 ans, il y aura des maladies qui vont arriver, il y aura des sols détruits, donc... Comme d'habitude, quoi.
Catherine, elle, ne sort plus sans son masque en papier. Elle vit à quelques dizaines de mètres seulement de l'usine Lubrizol.
Je suis juste à 50 mètres à peu près. Donc je respire ça à longueur de journée. On dit que c'est pas pollué, mais bon... Il y a quand même des odeurs et tout, et je travaille dans une maison de retraite et ils nous conseillent de mettre le masque.
Et la visite de plusieurs ministres hier sur le site n'y change rien. Beaucoup, comme Maxime, pensent que les autorités minimisent la dangerosité des retombées toxiques.
On a eu le ministre de l'Intérieur qui, soi-disant, tout allait bien. Quand là, on respire des hydrocarbures depuis plus de 48 heures, on commence à un petit peu à paniquer pour les enfants, pour les chiens, pour nous-mêmes. Voilà, ça nous fait un petit peu peur et non, tout va pas bien.
Ici, tous réclament maintenant que l'intégralité des analyses soit rendue publique le plus rapidement possible.
Romain Houg, l'envoyé spécial de RTL à Rouen. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'est également rendue sur place. Elle estime que la ville est clairement polluée et rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher les suies sans protection. Des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur la Seine. Le PDG de Lubrizol dit pour sa part comprendre le choc et dit se poser beaucoup de questions sur les circonstances de l'incendie. Il ne comprend pas bien comment celui-ci a pu se déclarer de façon accidentelle. C'est définitivement terminé pour Aigle Azur. Le tribunal de commerce d'Evry n'a retenu aucune offre de reprise pour la compagnie aérienne qui employait, je vous le rappelle, 1150 salariés.
Agnès, c'est la première fois qu'un président de la 5e République va être inhumé à Paris même.
Oui, Jacques Chirac, décédé jeudi à l'âge de 86 ans, reposera au cimetière du Montparnasse. Avant cette cérémonie qui se déroulera dans la plus stricte intimité familiale, les Français peuvent lui rendre un hommage. Avant-hier, des registres de condoléances ont été ouverts à l'Élysée et déjà beaucoup de monde s'est rendu sur place afin d'écrire un petit message, un petit mot. À partir de demain, 14h, il sera aussi possible de se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac aux Invalides. Puis lundi, après une prière dans le cadre familial, un hommage militaire, le cortège prendra la direction de l'église Saint-Sulpice pour une messe à laquelle devraient assister de très nombreuses personnalités. Au cimetière du Montparnasse, Émilie Beaujard, la tombe de l'ancien chef de l'État commence à être préparée.
Les lettres ont été dessinées au crayon rouge sur la stèle en dessous de la croix. Il n'y a pas de décoration, pas encore de fleurs, seulement deux pots en plastique et quelques fleurs artificielles. Les curieux s'approchent. Farid, en visite à Paris, n'en revient pas de voir le nom de l'ancien président sur une pierre tombale.
Et j'étais surpris parce que c'est vrai qu'il y a déjà son nom d'inscrit. C'est comme une prise de conscience. On prend conscience effectivement que c'est bien réel. Ouais.
La tombe de l'ancien président se situe sur une place au milieu du cimetière, pas loin de celle de Serge Gainsbourg. Michel, un habitant du quartier, est heureux de savoir que Jacques Chirac sera inhumé à Paris.
C'est le président de tous les Français. Donc je pense que c'est bien qu'il soit ici. Bon, je pense aux Corréziens, mais c'est bien qu'il soit ici. C'est très simple, à l'image de Jacques Chirac, qui se sentait proche de tous les Français. C'est une page qui se tourne, chichi. Ben on l'aimait bien, c'était un grand homme.
L'ancien chef de l'État sera inhumé dans l'intimité. Jacques Chirac est le premier président de la 5e République à être enterré à Paris.
Le reportage d'Émilie Beaujard pour RTL. Un hommage spécifique aura lieu en Corrèze, département que Jacques Chirac affectionnait tant. Cela se passera le week-end prochain. Et avant cela, donc, hommage lundi qui sera une journée de deuil national. Les drapeaux seront en berne. Une minute de silence sera respectée dans les écoles et les administrations à 15h.
Et depuis l'annonce du décès de Jacques Chirac, Agnès, évidemment, les hommages pleuvent.
Et au-delà des personnalités politiques, des stars, il y a ceux qui travaillaient pour celui qui a été maire de Paris, Premier ministre et évidemment président de la République. Éric Pal s'est occupé d'un domaine d'une grande importance aux yeux de Jacques Chirac, la cuisine. Pendant 21 ans, il a été son chef privé. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il vous a reçu, Yannick Holland, dans son restaurant de Soultz, dans le Haut-Rhin.
C'est avec sa recette de lapin au vin rouge qu'Éric Pal, jeune cuisinier de 19 ans à la mairie de Paris, se fait remarquer par Jacques Chirac qui lui demande de devenir son chef privé.
Je suis resté parce que c'est un homme charmant, il aimait les gens. Et ce qui fait que je lui ai dit « Ok, monsieur le maire, je reste avec vous 2 ans ». Et vous voyez, j'ai dit 2 ans et je suis resté 21 ans.
21 ans au service de Jacques Chirac, à Matignon, à la mairie de Paris, à l'Élysée ou encore en voyage officiel avec une valise diplomatique assez spéciale.
Dans la valise, j'en mets toujours mes quelques bières, mes crevettes, j'avais mon foie gras, tout ce qui était charcuterie. Etc. Il adorait ça. Un bon sandwich, pour lui, c'était sacré déjà.
Dans son restaurant Le Bellevue, à Soultz, Éric Pal a gardé encore aujourd'hui un plat mythique de ses années Chirac, la fameuse tête de veau.
Tous les week-ends, en tant que conseiller général, il allait en Corrèze. Et le boucher du coin lui faisait toujours une tête de veau. Et un jour, j'en ai fait une, mais il disait, j'aime pas trop le bouillon, je l'ai revisité à ma façon. C'est gratiné à la salamandre, je fais une sauce spéciale. Et j'en fais au Bellevue depuis que j'ai ouvert. J'en fais tous les semaines et les gens les adorent.
Éric Pal qui a aussi conservé précieusement un souvenir emblématique de l'ancien chef de l'État, un petit mot écrit à la main sur du papier à en tête de la mairie de Paris.
Voilà, ça c'est le petit mot. Un matin, j'arrive à l'office et je vois ce petit mot écrit en caractère très gras. Éric, il n'y a plus de bière dans le frigo. Merci. Je peux vous dire que ça m'est plus arrivé. Hein.
Ouais, une fois pas deux, hein. On n'oublie pas la Corona. Yannick Holland à Soultz dans le Haut-Rhin pour RTL. Hier, avant la demi-finale de l'Euro de volley qui a vu la défaite de la France hein, face à la Serbie, 2-3. Juste avant cette rencontre, une minute de silence a été demandée en hommage à Jacques Chirac. Mais des supporters de l'équipe de Serbie ont sifflé. Certains ne pardonnent toujours pas la position de la France au moment de la guerre du Kosovo. Avant tous les matchs de foot ce week-end, là aussi, hein, une minute de silence sera respectée. Début de la 8e journée de Ligue 1, cet après-midi à 13h30, Lyon reçoit Nantes. Un horaire très tôt, hein, tout simplement pour que le match soit diffusé à une heure convenable en Asie. Et à 17h30, Bordeaux accueille le Paris Saint-Germain avec le retour de Mbappé, s'il vous plaît. Les autres matchs seront à 20h. Hein. Nice-Lille, Monaco-Brest, Reims-Dijon, Metz-Toulouse ou encore Angers-Amiens. Soirée à suivre à partir de 19h30 sur notre antenne dans le multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France.
Et puis le sport ce week-end, ce sont également les mondiaux d'athlétisme à Doha.
Où les participants souffrent de la chaleur, c'est rien de le dire. Cela donne des scènes surréalistes. Dans le dernier tour d'une série du 5000 mètres, un coureur au bord de l'évanouissement a été soutenu par un concurrent. Mais tout le monde n'a pas la chance de passer la ligne d'arrivée, Jean-Michel Rascol.
68 marathoniennes au départ, 28 sur le carreau, évacuées discrètement. Un seul sourire à l'arrivée, celui de la Kenyane Ruth Chepengetich. Avec 72% d'humidité, 33 degrés encore à 3h du matin, même les spectateurs avaient renoncé. Pas de quoi rassurer Johan Diniz, qui avant même cette parodie de marathon, savait à quoi s'attendre la nuit prochaine sur le 50 km marche.
On va vraiment vivre un calvaire. Donc après, tout le monde va le vivre. Voilà la stratégie. Restez debout. Restez debout, les jambes tendues. Ou de sortir vivant.
Mais Doha, ses adeptes, certes à l'intérieur du stade, où la climatisation qui a coûté 81 millions d'euros fait son effet. Le perchiste Renaud Lavilleni.
Je sais que j'ai un collègue d'entraînement, à partir de 30 degrés, il n'arrive plus à respirer. Et à l'inverse, moi, voilà, je ne suis pas non plus atteint que ça. Donc voilà, il faut juste prendre les choses comme elles sont. On est là et on n'a pas le choix. Et puis si on n'a pas envie, ben on n'y va pas. Et puis on laissera les autres gagner. Mais ce n'est pas trop ma philosophie, quoi.
Renaud Lavilleni en action dès cet après-midi en qualification.
On a hâte. Jean-Michel Rascol à Doha pour RTL.
Et puis elle se porte toujours aussi bien, la dame. Et pourtant, la Tour Eiffel fête ses 130 ans.
Pour terminer en beauté, plusieurs mois d'anniversaire jusqu'au 24 novembre. Une exposition gratuite raconte les dessous de la construction de ce monument si célèbre. Visite guidée avec le directeur général de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, Patrick Branco.
Ici, on est sur le dôme de la Tour Eiffel qu'on a mis sur le parvis de la Tour Eiffel. L'exposition est gratuite. Allez, je vous emmène. La tour, c'est 2 500 000 rivets, 18 000 pièces. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Et on arrive à construire quelque chose d'absolument magnifique, de 300 mètres. Donc là, ici, on a un écran, justement, sur la peinture pour faire découvrir toutes les couleurs de la peinture de la Tour Eiffel. On est habitué au brun Tour Eiffel depuis les années 60. Et en fait, elle n'a pas du tout eu toujours cette couleur. Elle était rouge au départ.
On continue ?
Ouais. Une des raisons pour lesquelles la Tour Eiffel n'a pas été démontée 20 ans après... Elle devait être démontée, puis finalement ça s'est pas fait. C'est parce que c'est devenu un point haut très important en matière de communication. Communication militaire tout d'abord, et puis communication civile avec le développement de la radio.
Est-ce qu'elle est prête, cette tour Eiffel, à vivre encore 130 ans ?
Ah, moi, je pense qu'elle est prête même à vivre beaucoup plus. Hein. 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années, c'est ce que je lui souhaite en tout cas.
Patrick Branco qui nous faisait visiter cette exposition au micro RTL de Raphaël Vontard.
RTL.fr pour toute l'actualité évidemment. Merci Agnès, on vous retrouve à 9h pour tout savoir justement de l'actualité de ce samedi 28 septembre.